Nous sommes le lundi 11 février et vous écoutez le 40e épisode Phase B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses, et salut Jérémy de Proxy Jeux.
Salut Olivier de Proxy Jeux, ça va?
Ouais, ça va. Il est presque...
Il est presque mardi 12, mais tout va bien.
Et nous avons été un petit peu longs parce que nous avons enregistré un petit débrief sur le crowdfunding. Et puis voilà, j'ai oublié de vous dire quelque chose, cher auditeur, auditrice, dans la face A. Je vous conseille d'écouter le numéro 35 de l'ATG, de l'agence To Geek, donc un podcast FreePod, dans lequel on va retrouver Valentin Lefebvre, qui est l'un des deux protagonistes de l'aventure Hippone, qui va présenter, enfin qui va vous dire un petit peu, qui nous dit un petit peu là où ils en sont avec Hippone, et surtout ils ont reçu les éditions volumiques, et c'est très intéressant. Ça parle de jeux de société, ça parle de d'équipements communicants, d'objets communicants, ça parle de Nabastack, la nouvelle version de Nabastack s'appelle Readymate.
C'est ça plus, existe toujours.
Ouais, non, plus ça n'existe plus. Sauf que maintenant, c'est du, c'est un petit objet en kit. C'est-à-dire que tu vas avoir le Arduino qui va bien et qui fait papa maman.
Ah carrément.
Avec un petit assemblage en carton autour, et après, bah tu peux en faire ce que tu veux.
Non, on est vraiment geek alors.
Voilà, mais moi, ça m'a juste donné envie de claquer mes $130 pour acheter ça. Bref. Voilà, et dans cette phase B, nous allons vous parler de jeux et on va commencer tout de suite.
Donc c'était pas prévu, mais donc je présente les trésors des dragons, c'est ça?
Et bah oui, donc oui, puis vu qu'on en a parlé
voilà, et ça fait une semaine que vous attendez, donc
au moins une semaine, peut-être même 10 jours.
Oui.
Non, je me mets là, ça
fait on va dire une semaine. Non, on a été rapide.
Tiens, filme la boîte s'il te plaît.
Tiens. Voilà la boîte.
Donc, une belle boîte.
Le Trésor des Dragons, c'est un jeu de Rainer Knizia pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans et ça joue en 15 minutes environ.
C'est illustré par qui?
C'est illustré par Rainer Knizia.
Lui-même?
Non, je ne sais pas. C'est pas marqué sur la règle. Je ne sais pas. Ça date, le jeu est trop...
Si, c'est Rolf Vogt.
Ah, c'est Rolf Vogt. Eh ben, pareil, celui qui fait chez Gigamic, là, tous les mythos, etc.
Ouais, tu sens la patte. Les dragons, ils ont le cafard.
C'est vrai, ils ont bien le look des cafards, effectivement, et des mythes. Enfin, la punaise et tout ça, de mythos. Le principe du jeu, c'est un jeu de mémoire. On a 49 tuiles. 49 cartes, on va dire. Donc, on les dispose en un plateau de 7 cases par 7 cases.
Ce sont les tuiles que j'entends.
Voilà. Le concept, c'est un memory, mais c'est aussi un stop ou encore. C'est-à-dire qu'à votre tour de jeu, un joueur, il retourne autant de cartes qu'il veut. Il en retourne une première, et puis une deuxième, et ainsi de suite. Il va décider quand est-ce qu'il s'arrête. Au moment où il s'arrête, il va pouvoir récupérer des cartes. Mais il se peut aussi qu'il retourne...
Des cartes. Des tuiles, tu veux dire?
Ouais, des tuiles ou des cartes. Ouais.
Il y a des cartes dans...
Moi, j'appelle ça des cartes.
Ah.
Non, ça t'appelle pas ça des tuiles?
Bon. Non, c'est des tuiles.
Je parlerai de cartes pour nommer les tuiles. Donc, le concept, c'est que, par exemple, s'il y a des cartes qui vont par trois, par exemple, des chandeliers, il faut en avoir retourné trois pour pouvoir en emporter les trois cartes. Il y a des coffres au trésor, eux, il faut carrément en avoir retourné quatre pour pouvoir les gagner. Plus facilement, il y a des jouets comme un ballon, les voitures, les poupées, eux, il en faut que deux. Donc, ceux-là, ils sont beaucoup plus faciles à rattraper. Mais attention, quand on a retourné certaines de ces cartes, par exemple des jouets, et qu'on retourne par malencontreusement un dragon...
Ah, le dragon.
Aïe, 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 c'est raté.
Ah, d'où le stop ou encore.
Et dans ces cas-là, on retourne les cartes, et donc à nouveau, ça va être au joueur suivant de devoir récupérer. Par contre, si on retourne que des dragons, on peut les ramasser. On peut ramasser autant de dragons qu'on veut. Si on retourne 5 dragons, 6 dragons, je peux ramasser les dragons.
Et rappelle-moi, combien est-ce qu'il y en a dans la boîte?
Alors, il y a 49 cartes, donc ça fait un beau plateau. Hein. 7 cases par 7 cases.
49 tuiles, ouais.
49 tuiles, voilà.
Combien de dragons?
12 dragons. Donc 4 sur 4. Donc tu tombes souvent sur les dragons.
Ouais.
Donc il faut mémoriser, mais tu les prends. Et puis il y a des cartes faciles, c'est les diamants, les bagues. Alors les bagues, tu les prends, tu peux toujours les ramasser, les bagues.
Parce qu'il n'y en a qu'une seule?
Il y en a 8, non.
Ah.
Et au milieu des cartes, attention, il y a aussi des araignées, il y en a 3. Et l'araignée, c'est la carte à ne pas piocher. L'araignée, quoi qu'il arrive, ça te fait perdre ton tour, instantanément. Et tu prends l'araignée, tu la remets où tu veux sur le plateau. Là où il reste un espace, etc. Et donc des fois, bah, les joueurs, s'ils font pas gaffe, ils vont retomber sur l'araignée qui t'a déplacé.
C'est-à-dire que tu peux enlever une tuile, mettre l'araignée et changer la...
Non, tu la remets que sur un emplacement vide, mais au fur et à mesure, forcément, le plateau
ça se vide.
C'est vidé et tu mets l'araignée à ce moment-là.
Okay.
Voilà. À la fin de la partie, évidemment, c'est quand il reste plus que les trois araignées dans le carré. C'est celui qui a le plus de dragons qui gagne du coup les trois cartes araignées, et celui qui a le plus de cartes a gagné.
Ah, mais...
C'est facile,
ah.
Hein. Eh ouais. Tu vois un petit peu toute la...
Ouais, d'accord.
J'aime beaucoup ce côté un peu stop ou encore en plus du memory. Et c'est pas facile parce que les coffres, ils font quand même mémoriser 4 emplacements. Donc forcément, ça prend. Enfin, les coffres, on les ramasse pas tout de suite. Il y a 8 cartes au coffre, donc il y a 2 lots à 4, on va dire, à ramasser.
Oui.
Ou si t'es extrêmement fort, tu ramasses les 2 lots en un tour, mais non, généralement, t'en ramasses un.
Oui.
Donc il faut savoir. Enfin, il y a vraiment des cartes à ne pas retourner en même temps que d'autres. Les dragons, il faut pas les retourner en même temps que t'as retourné des chandeliers ou des jouets, par exemple. C'est voilà, ça marche très bien. C'est pour les enfants, ils disent à partir de 6 ans, c'est exactement ça.
Et puis moi, ça se trouve encore, c'est ça
qui est
bien.
Et ça se trouve encore, et c'est ça a été nominé au Spiel en 2004, donc le jeu a presque 10 ans. Et pour moi, c'est dans les jeux qu'a fait Knizia pour les enfants, c'est juste une référence parfaite.
Très bien, très bien. On en a parlé quand on vous a parlé de
la course des tortues.
Je pense que c'est pas forcément pour le même public.
C'est différent.
Peut-être public un peu plus âgé. On parle d'enfants, hein, on parle pas de... Enfin, on peut jouer avec des vieux aussi, je pense.
Le problème qu'il a, c'est qu'il est en compétition au niveau des jeux de mémoire avec des jeux plus traditionnels comme l'escalier hanté, comme surtout Pique-Plume.
Le petit poussé.
Bah voilà, ou plus récemment, le petit poussé. Donc c'est sûr qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais en fait... Moi, c'est ce côté justement plus. Il est vraiment plus proche du memory, au sens vraiment, je retourne deux cartes. Enfin, je retourne les cartes, il faut assembler par paire, par tierce, par.
Par quinte.
Par carte. Non, il n'y a pas
par
de quinte.
Par octo. Ouais,
oui, ouais. Bon courage, par octuple.
Octuple.
On ne sort pas souvent, en fait, malheureusement, parce qu'il est perdu dans la pile des trucs. Non, mais quand on le sort, on a toujours plaisir de. En fait, on le redécouvre. On se redit, ah ouais, qu'est-ce que c'est sympa, en fait. Mais malheureusement, bah ouais, il disparaît dans la pile. Mais moi, je vous le conseille. Il est dès 6 ans, mais vous pouvez jouer avec des enfants bien plus grands et même entre adultes. C'est pourquoi pas. Hein, c'est pas.
Sinon, vous avez entre adultes, vous avez la course des tortues.
Non.
Alors, non. Le trésor des dragons, c'est un jeu de Rainer Knizia chez Winning Move, importé par Oya. Ça a été publié en 2003. Alors, effectivement, certains le classent comme jeu de cartes. Donc, tu as raison. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes et puis une vingtaine d'euros.
Voilà, une vingtaine d'euros.
En fait, ouais. Et puis, Jérémy, tu m'as dit que tu avais craqué, que tu avais acheté Descente, la V2, et que tu voulais justement acheter ce pack de conversion de Descente pour jouer avec tes enfants.
J'ai pas acheté le pack de conversion, moi j'avais pas acheté Descente V1 en fait. Parce que j'avais pas été emballé par la V1, j'avais trouvé un peu complexe, etc. Donc
ouais.
Je me suis dit, ok, il y a la V2 qui arrive, ça a l'air plus simple, etc.
Je peux parler de la complexité de la V1.
Ouais.
Et des problèmes de cohérence où parfois t'as des choses un peu bizarres où quand t'as deux personnages, tu peux pas passer à travers et puis après t'as un obstacle et. Et là, t'as une ligne de vue. Enfin, il y a des choses un peu. Il faut être un peu précis sur les règles. Il faut les connaître vraiment par cœur pour bien jouer.
C'est ça qui est simplifié. Ouais.
Il y a un placement. Enfin, ça se joue au placement. Ça se joue aussi au dé. Mais puis, il faut juste pas prendre les archers. Oublier les archers, ça sert à rien. Sauf avec la compétence qui transforme la portée en bonus d'attaque.
Bah, dans le 2, ils les ont rendus plus forts, je pense.
Ah, j'avais donc raison.
Et ils sont pas aussi costauds, ils lancent pas les mêmes dés que les trucs au contact.
Non, ils sont jamais costauds.
Voilà. Mais bon.
Mais c'est un peu des AD carry de LoL en fait. Ok.
Mais ils ont des pouvoirs intéressants après qui.
Bref, dans la V1, c'était très technique et il y avait quelques incohérences. Enfin, c'était très technique au point de vue des règles, c'est-à-dire que pour passer au-dessus de certains obstacles pour pouvoir se déplacer, il y avait des choses et puis t'avais tellement de compétences différentes que ça devenait un peu fouillis.
Mais en fait, le 1, il a été fait par Kevin Wilson, c'est ça ? C'était l'auteur du 1.
Oui, sûrement. Oui,
qui est parti,
oui.
En fait. Et comme il est parti bah, de tout, en fait, de Fantasy Flight, de tout ça. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont permis de tout corriger, de le rechanger un petit peu.
On n'osait pas parce qu'il était là, mais maintenant qu'il est parti.
Ah, mais je pense, bah, écoute, je sais pas, il a peut-être cédé ses droits sur les.
Ouais.
Bref, donc du coup, ça a été changé. Alors, globalement, le jeu, ça reste quand même de l'exploration de souterrains. Ça reste du jet de dés partout. Hein, ça, ça n'a pas changé. Donc, on a toujours des personnages qui peuvent être super costauds avec 14 points de vie ou bien super, enfin, beaucoup plus faibles avec que 8 points de vie et qu'il faut faire gaffe. Effectivement, par contre, le niveau de la règle des déplacements, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, tu peux tracer là où il y a des pions ennemis. Tu peux passer facilement entre deux pions,
voilà,
entre les cases, etc. Enfin, tout ça a été simplifié, ce qui fait que tu te poses pas toutes ces questions effectivement pendant que tu joues. C'est, la règle est fluide, elle est simple. Tu fais la première partie d'initiation et ça y est, c'est bon, c'est parti. Par contre, le jeu, il est encore taillé pour du 12-14 ans. Moi, je l'avais pris, en fait, je me disais, bah tiens, je vais peut-être, parce qu'il n'y a plus les HeroQuest de notre enfance pour jouer avec mes enfants. Un peu comme toi, je cherche un dungeon crawl un peu pour jouer avec les enfants, parce que je pense que c'est un jeu sympa. Les gamins, ils aiment jouer avec des figurines, ils aiment ce côté un petit peu. Enfin, je pense que ça les intéresserait d'avoir ce côté un petit peu immersif.
Bah, t'as trouvé ?
Ouais, mais non. Parce qu'en fait.
Non, avec Crossmaster Arena.
Avec Crossmaster Arena non plus.
Mais c'est de la tactique, c'est pas vraiment. Il est trop tactique. Trésor, monstre.
Et il est trop tactique, il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte, donc ce qui fait qu'il est taillé pour ado. Et ben, c'est pareil pour Descente, parce que dans la Descente, il y a toujours l'aspect fatigue, enfin, il y a pas mal de gestion assez stratégique, assez à prendre en compte. Les monstres, l'air de rien, ils sont pas, c'est pas juste des faire-valoir, hein. Ils sont quand même coriaces, etc. Et ils reviennent régulièrement sur le plateau, ce qui met la pression aux joueurs, et ce que des enfants ne peuvent absolument pas comprendre. Donc, à moins de jouer le maître de donjon gentillet, on va dire, qui va être cool, etc. Mais ce que, moi, pour l'instant, j'ai fait deux parties, donc ce que je n'étais pas parce que je me rendais pas compte. En fait, je les ai tapés fort dès le départ, mais tellement fort qu'en fait, les pauvres, ils en ont fini. Ils ont été cloués après sur place au bout d'un moment.
Mais tu.
Et je me suis dit, ouf, j'y suis allé un petit peu fort, mais c'était des premières parties, donc je pouvais pas savoir.
C'est une campagne ou c'est du one shot ?
Alors, justement, après, c'était ce que j'allais dire. L'intérêt de cette V2, c'est que par contre, c'est très étoffé au niveau campagne et scénario. C'est-à-dire qu'il y a. Une vingtaine de scénarios, je dirais 16 scénarios, peut-être même plus. Un scénario, je rappelle, c'est joué sur deux rencontres, hein, déjà, donc ça prend une double page, il y a deux plateaux à monter, et à la fin de la première rencontre, les héros ont quasiment la même vie, etc., et ils redémarrent directement la deuxième rencontre. Donc tout ce que tu leur as déjà cogné à la première rencontre, va avoir du mal à se relever pour la deuxième. Donc moi, avec les enfants, je jouais qu'une rencontre. Deux, c'est trop long.
Et une rencontre, c'est combien de temps ?
Une rencontre, c'est une petite heure, on va dire, sur les scénarios de base. Voilà. Ouais, à peu près. Hein. Alors ce qu'il y a, c'est que, voilà, après, il faut rappeler aux enfants plein de choses, plein d'éléments. Et donc, en fait, par contre, l'intérêt de la V2, c'est qu'elle a un mode campagne qui est très sympa, puisque les joueurs vont pouvoir, en fait, derrière le livret de campagne, il y a une carte du monde, et puis tu peux aller.
Où tu veux.
Tu vas pouvoir un petit peu choisir où est-ce que tu fais. Et une campagne, elle est bâtie, tu as un prélude, je crois bien. Tu as 4 scénarios de niveau 1. Tu as un interlude, et ensuite tu as 4 scénarios de niveau 2. Donc les niveaux, en fait, c'est juste que c'est plus costaud, parce que tes personnages vont monter en expérience, etc. Le MJ aussi, enfin, le. Comment on dit,
L'Overlord
va aussi monter en niveau petit à petit ces monstres. À part l'interlude, donc les scénarios sont choisis un petit peu par les joueurs ou par celui qui a gagné le scénario, etc. Et il y a tellement de choix que ça permet de renouveler suffisamment les parties. Je pense qu'il y a l'antre de la Wyrm là qui va sortir en extension, mais enfin, quand tu achètes la boîte de descente V1 en tout cas, V2 pardon. Justement, par rapport à la V1, tu as déjà des heures et des heures de jeu devant toi.
Mais t'as plein de figurines dedans ?
T'as moins de figurines. Faut reprendre ma boîte, mais t'as beaucoup moins parce que la boîte en fait avant elle faisait la taille de deux boîtes mémoire 44, on va dire. Enfin, deux boîtes. Maintenant ça en fait plus qu'une.
Ah oui.
La boîte elle est plus épaisse quand même, hein, parce que c'est plein. Une fois que t'as tout dépunché et tout, j'ai viré l'insert en carton. L'insert en bois. J'ai viré l'insert en carton. Et donc les figurines il y en a moins, mais suffisamment pour faire des rencontres sympas. Voilà. Et ce qui fait aussi, oui, j'ai pas dit qu'il fait que ça marche pas avec les enfants, c'est que il faut qu'ils gèrent les personnages. Donc ils ont, les caractéristiques, comment ils peuvent se déplacer, leur fatigue, la santé, tout ça, ils savent gérer. Mais par contre, quand il va falloir en plus gérer le pouvoir permanent qu'a le personnage, son équipement, les objets magiques qu'il va trouver pendant les fouilles, etc. Là, ça devient compliqué. Ah, et bah forcément, oui. Voir toutes les interactions, c'est pas possible pour des enfants. Donc, ou bien tu mets un adulte avec les enfants. Et il faut que l'Overlord soit quand même sympa malgré tout.
Mais
malgré tout.
C'est un petit
parce
peu
que les gamins, tu sais,
ils
jouent pas coopératif, quoi. Ça fonce, c'est n'importe quoi.
Ouais, je sais.
Ça marche pas.
Mais c'est un peu le problème de Descente, c'est que, enfin, c'est le problème que moi j'y voyais, c'est tu joues pas vraiment le maître du jeu. C'est-à-dire que t'es pas censé être le gars qui anime la partie.
Non, tu te bats contre.
Et en fin de compte, bah, c'est comme ça déséquilibré. Il y a des parties, voire des campagnes, où le maître du jeu, enfin le Overlord, il se fait rouler dessus parce que il y a une composition d'équipe qui est OP, ou alors parce ouais. que il joue mal, enfin il joue moins bien que ses joueurs, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est très, il est pointu, il arrive à avoir les faiblesses et il tape, et puis c'est ça qui est un petit peu embêtant, quoi. Mais bon.
Après, tu dépends comment tu veux le jouer. Ouais. Mais là, c'est vrai que les joueurs, en plus, en fonction des personnages, s'ils prennent pas une équipe un peu équilibrée, c'est une catastrophe.
T'as dit un scénario, c'est deux heures.
Deux rencontres. Ouais, c'est à peu près 2 heures. Ouais.
Donc en fait, ça veut dire que.
Une campagne, c'est une vingtaine d'heures.
Une vingtaine d'heures.
Et t'as de quoi faire plusieurs campagnes. Donc dans la boîte de base qui est vendue 60€.
C'était beaucoup plus que ça dans les campagnes, ouais, je crois. Ouais.
Les durées.
Ah ouais.
Ouais, parce que tu devais te poser plein de questions.
C'était plutôt 300 heures, un truc comme ça que.
Là, c'est bien, hein, parce qu'au moins. Moi, je trouve quand même que c'est toujours un jeu qui est un peu haché. Ce que je reprochais, ouais, mais le 1, c'était vraiment trop haché pour moi. Tu vois, quand tu jouais ton tour, c'était pas. Tu jouais, puis après, t'attendais un bon moment pour que ce soit à nouveau à toi de jouer. Enfin, t'avais pas la dynamique vraiment de progression des héros, etc. Là, c'est déjà beaucoup plus fluide. Tu te poses beaucoup moins de questions pour savoir combien de jets de dés tu lances pour le combat, pour la défense, les actions que tu peux faire. C'est simplifié.
Okay.
Là-dessus, okay. C'est le côté positif. Mais par contre, pour moi, toujours pas avec des enfants. Quoi.
Donc, mieux que la version 1, mais pas pour des enfants, peut-être plus Super Dungeon Explore. Et moi, ce que je reprochais de Super Dungeon Explore, c'est que il manquait ce côté scénarisé. Et je pense que pour bien savourer de Super Dungeon Explore, il faut que. Bah, c'est du role-playing, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es le méchant, ouais. Et puis tu leur prépares le scénario et t'introduis ce qu'il y a dans Descente. C'est-à-dire tu dis, bah voilà, vous avez deux statues, puis elles bougent pas, et vous voyez des gemmes dans la main de chacun des deux statues. Qu'est-ce que vous faites? Et là, ils commencent à se poser des questions, ils tournent autour, ils font des trucs. Et
je après, tape!
Voilà, ça. Tu détruis les gemmes. Ah, malheureux! Tout le monde meurt dans le village, bravo.
Donc, Descente, c'est un jeu. À l'origine de Kevin Wilson, qui a été revu par Corey Kojnicka chez Edge en français pour 2 à 5 joueurs pour à peu près 2 heures par session à partir de 14 ans et pour environ 65€ chez Ludic Bazar sans réduction de fidélité et moins 13% si vous êtes fidèle.
Ça fait un petit moment qu'on vous parle régulièrement, voire très régulièrement, de X-Wing, le jeu de miniature de Fantasy Flight Game édité en France par
Edge, pour changer.
Oui. Et je voulais vous en dire un petit peu plus parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'ai beaucoup aimé. Et donc je voulais rentrer un petit peu dans le détail de ce jeu. Alors, quand on ouvre la boîte de Star Wars X-Wing, on va trouver d'abord 3 miniatures. On va trouver 2 TIE Fighters et puis un X-Wing. Les miniatures sont plutôt jolies, plutôt très détaillées et c'est vraiment un plaisir parce qu'on retrouve vraiment les vaisseaux clés des numéros 4, 5, 6 de la trilogie, la première trilogie, la vraie. Et on trouve aussi des cartes qui vont être utilisées pour caractériser ces vaisseaux. Donc sur les cartes, on va retrouver des choses assez faciles. On a une sorte de d'initiative. Les vaisseaux seront déplacés dans un certain ordre et après, dans l'ordre inverse, les vaisseaux vont tirer. Et puis on va trouver des caractéristiques d'attaque, de défense. Donc on va acheter des dés rouges pour l'attaque, des dés verts pour la défense. Et puis on va avoir une caractéristique de coque. Par exemple, pour les TIE Fighters, c'est 3. Et puis des boucliers. Il n'y en a pas sur les TIE Fighters. Par contre, le X-Wing, lui, il en a un. Et il a un bouclier de 2.
Ce qui fait que. Il a des boucliers.
Oui. Bah écoute, ils ont pris des libertés.
Ah oui, je pense, ça ne dit rien dans le film.
Donc de base, tu vas avoir en fait des caractéristiques. Par exemple, pour le X-Wing, tu vas lancer 3 dés en attaque, 2 dés en défense. Tu vas avoir une coque qui a une résistance de 3 et 2 boucliers. Et puis, tu as des caractéristiques qui changent suivant ton vaisseau. Tu vas avoir également des caractéristiques au niveau de la manœuvre qui vont changer. C'est-à-dire qu'en fonction de ton vaisseau, tu vas pouvoir faire des manœuvres que les autres ne vont pas pouvoir. Par exemple, le X-Wing, lui, il peut aller de 1 en avant, alors que les TIE Fighters ne peuvent pas. Par contre, eux, ils vont de 5 en avant, alors que le X-Wing ne peut pas. Et tu vas avoir des manœuvres qui seront en rouge, par exemple une sorte de looping, quand le vaisseau se retourne, il va en avant et puis après il se retrouve face à toi. Et puis des manœuvres en verte, donc les manœuvres sont rouges quand elles vont stresser ton pilote, et les manœuvres vertes seront des manœuvres faciles que tu peux avoir effectuées et qui vont en fait te déstresser, tu vois, c'est assez facile, donc ça va, je suis un peu moins stressé.
C'est léger, on va dire, voilà, t'encaisses dans l'espace, n'est-ce pas?
Et puis, l'idée, ça va être que tu vas avoir des tours qui vont s'enchaîner, tu vas programmer le déplacement de ton vaisseau, tu vas déplacer ton vaisseau, et le vaisseau va tirer. Donc en fait, tout le monde va programmer ses déplacements. Tout le monde va déplacer, en fonction de l'initiative du vaisseau, les vaisseaux les uns après les autres. Et à la fin, il va y avoir une phase de tir. C'est aussi simple que ça.
Et c'est aussi hasardeux que dans Wings of War.
Alors alors c'est ouais, je dirais c'est même pire encore.
Ah bon.
Non, je peux pas dire par rapport à Wings of War. Je me souviens plus à quel point c'était hasardeux. Là, en l'occurrence, sur les dés, tu vas avoir des faces vierges. Tu vas avoir des faces avec des yeux, et les faces yeux, c'est un pouvoir de concentration. Donc tu vas pouvoir te concentrer à la fin de ton déplacement, tu dis je me concentre, et ça va te permettre de transformer un œil soit en attaque, soit en manœuvre d'évasion. Et puis tu vas avoir, quand tu lances les dés rouges, des explosions, enfin des touchés et des touchés critiques, et quand tu lances des dés verts, tu vas avoir des manœuvres d'évasion. Sachant que tu peux également sur les TIE Fighters dire à la fin de ton déplacement, que tu fais une action gratuite qui est « je me prépare à m'évader ». Et donc, c'est pas aussi efficace que l'œil, parce que tu te... Mais, d'un autre côté, c'est pas « je transforme un œil en quelque chose », c'est « j'ajoute automatiquement une manœuvre d'évasion ». Donc, t'es sûr de l'avoir, celle-là. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà.
Si, mais c'est... D'accord, mais c'est une partie de comment dire... de devinette.
Bah c'est ça. Mais de toute façon,
c'est normal, c'est comme ça le combat.
Le plus gros du jeu du voilà, c'est ça, il faut utiliser la force et puis savoir.
C'est ce que j'allais dire, c'est la force en fait qui fait. Comment tu m'allais pas représenter la force là, c'est à toi de l'avoir.
Non, mais si justement, c'est la concentration.
C'est ce côté concentration, ouais.
Ouais, c'est ça. Qui vont te permettre de modifier un petit peu le résultat. Alors dans la boîte, tu vas trouver des réglettes, alors, je sais pas, des gabarits. Ça va de 1 à 5, ça tourne, ça va tout droit, ça tourne un peu, donc à 45 degrés, ou ça tourne à 90 degrés.
C'est pas le même système que les cartes qu'on mettait à Wings of War devant.
Non. Là, ton gabarit est plus ou moins grand, et puis tu le places devant ton vaisseau, tu prends ton vaisseau, tu le mets au bout du gabarit, et puis voilà. Sur justement ton socle, tu vas avoir un certain nombre de.
D'infos.
Ouais, en fait, c'est des petites pièces en carton que tu vas mettre sur le socle et qui vont changer. C'est-à-dire que tu vas pas avoir qu'une seule carte. T'as du Luke Skywalker, mais tu peux avoir d'autres pilotes dans le X-Wing.
Je crois même que dans les extensions, t'as plusieurs Luke Skywalker. Tu peux changer.
C'est possible. Je suis pas allé aussi loin que ça. Et puis après, donc tu as un gabarit aussi pour la portée. Sachant que quand t'es à courte distance, tu vas rajouter un dé lorsque tu tires avec ton arme principale qui est un rayon laser. Tchou, tchou, tchou. Et tu vas
avec la bande son derrière.
Je suis pas sûr de la rajouter. Et tu vas lancer un dé supplémentaire quand tu es à 3 de portée et quand tu défends. C'est-à-dire que t'es assez loin et donc c'est plus difficile de toucher. Tu peux plus manœuvrer pour t'échapper. Donc après, tu dois avoir 2 ou 3 scénarios dans la boîte.
Ouais, t'as que 3 vaisseaux par contre. C'est pas trop limitant.
Et attends, je suis bien. Donc, et puis tu as des armes complémentaires, tu as des améliorations, donc tu peux enrichir le jeu. Je dirais que la boîte de base, elle fait 35 euros, et déjà tu te dis, ça sera bien d'avoir deux fois la même. C'est-à-dire que ça va bien d'avoir un X-Wing et deux TIE Fighters, Mais là, tu vois, on en a fait trois parties. Il y a une première partie qui est une partie d'apprentissage,
ouais,
où tu n'as pas tous les trucs. Bah, bon, voilà, ok, tu passes très vite à la partie règle complète, mais c'est bien pour commencer.
Ouais, c'est ce qu'il faut.
Et puis tu te dis, voilà, quoi, c'est très limité, quoi. C'est très limité, tu fais pas 50 parties comme ça, quoi. Donc forcément, la première chose à faire, c'est de rajouter une autre boîte de base. D'abord, pour avoir plus de TIE Fighter, de vaisseaux de base, et en plus, pour avoir des dés en plus. Parce que quand tu lances tes 3D, mais que tu as un dé supplémentaire,
tu l'as
pas. Tu lances 3D et après que tu en relances un autre.
Ah.
Et ça fait juste un peu rat quand tu as payé 35 euros
ouais,
ta boîte de base.
C'est un bon moyen par contre pour essayer le jeu, parce que si le jeu te plaît pas, que tu l'avais payé, ils auraient été vendus
ouais.
110 euros avec tout le matos. Bon, ils auraient pu le vendre à 50,
mais,
si tu veux dire.
Non, mais ils auraient pu rajouter 2 dés en plus, quoi.
Oh, ça coûte cher un dé.
Ouais, c'est ça. Attends, je te rappelle qu'il y a que 3 miniatures dedans.
Ah, attends, bon, elles sont peintes par des Chinois.
Il y a aussi tout un tas de marqueurs. Il y a des marqueurs parce que t'as aussi la possibilité de marquer, de verrouiller une cible quand t'es dans le X-Wing. Et puis ça va te permettre de lancer des dés supplémentaires quand tu vas l'attaquer. Voilà. Enfin, bref.
D'accord, bon. Mais en fait, c'est pour quand t'aimes. Donc quand tu aimes, tu comptes pas. Après, tu craques.
Oui. Je trouve que les combats sont très dynamiques. J'ai pas essayé les scénarios, mais je pense que ça renouvelle bien le jeu. Il y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a sur le site de Edge, de Fantasy Fall Game. Enfin, tu dois en avoir en ligne.
Oui, au pire, t'as la communauté qui doit en faire.
C'est très agréable d'avoir les vaisseaux dans les mains. C'est-à-dire que les combats sont super. Tu retrouves ce que t'as vu dans les films. Je pense que pour avoir une flottille importante, bah, t'es obligé d'avoir une table qui est quand même assez, assez conséquente.
Ouais, c'est ça. Après, faut...
On a joué sur une table qui faisait 80 de large pour 1m20 de long. Donc c'était trop grand pour notre petit vaisseau. Par contre, je pense que tu couvres bien la table si t'as déjà deux boîtes de base. Ils ont fait le TIE Advanced, mais ça m'est passé sous le nez parce que donc c'est le vaisseau de Dark Vador. Je me suis pris trop tard et puis je me suis pas décidé. Bon, voilà.
Et puis ouais, ils en refont pas pour l'instant. Ça va revenir.
Ça va revenir.
Ça va revenir. Ouais.
Et surtout, je suis en train de faire grimper mon solde de fidélité dans ma boutique en dur préférée. Parce que je veux jouer avec le Faucon Millennium.
Et oui, le Faucon.
Parce que et ça, ça va me coûter 30 euros, mais
ça fait mal voilà, pour quoi. Une figurine.
Voilà.
Ouais.
Bah ouais, mais tu vois, c'est
le Faucon.
T'as, bon encore, tu vois le.
Quand tu penses que c'est Monsieur Disney maintenant que tu finances.
Le TIE Advance, bon voilà quoi, c'est pas aussi charismatique
oui, qu'un faucon.
Que le faucon millénaire quoi. Et même après le Slavoine il peut être sympa donc j'attends de voir. Je pense que je vais craquer forcément pour le faucon millénaire, ça c'est clair. Je vais me racheter une boîte de base, ça c'est clair, parce que c'est clairement pas assez diversifié avec ça. Dans la boîte t'as des astéroïdes, donc je pense que t'as vraiment des trucs sympas à faire. Il te faut une grande table. La table que t'as, la table sur laquelle on enregistre, là, c'est parfait.
2 mètres carrés, là, tu peux y aller. Hein.
Ben ouais, mais je pense qu'à un moment donné, c'est un peu le deuxième défaut que je vois à ce jeu, c'est que dès que tu commences, il faut que t'aies des miniatures pour avoir du plaisir, et il faut avoir une grande table pour pouvoir jouer avec ces miniatures.
Faire des manœuvres.
Et ça va me porter préjudice. Mais bon, voilà. Et puis après, je verrai. Je pense que le jeu a eu suffisamment de, il est parti suffisamment vite pour qu'il ils puissent redonner un peu plus de... le réimprimer de façon un peu... Enfin, le réimprimer.
Et il a déjà eu un retirage, je crois, d'ailleurs.
Ouais, mais ça va se vendre bien. Autre bémol, la boîte, qui est une boîte avec un trou. C'est-à-dire sur le couvercle, t'as un trou qui laisse paraître ta petite boîte avec tes trois miniatures dedans. Et tu dis, ok, mais comment est-ce que je fais quoi ? Parce que dès que t'as enlevé l'insert, parce que t'enlèves l'insert pour mettre tout dedans...
Un battle foam.
Eh ben, il te faut le battle foam. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a de gros défauts à ce jeu, le prix n'est pas le moindre, mais par contre je trouve que c'est vraiment très très sympa. Wings of War n'avait pas la magie de Star Wars, forcément. X-Wing Miniature Game est un jeu de Jason Little, publié chez Fantasy Flight Game et Edge. Pour deux joueurs dès 14 ans, là vous pouvez facilement initier des enfants beaucoup plus jeunes, voire mon fils a 10 ans et ça s'est très très bien passé, je pense que ça marchera. De toute façon il joue à Season donc tout va bien. Pour une durée estimée de partie de 20 minutes, effectivement, quand vous avez que la base de boîte, quand vous avez que la boîte de base, 20 minutes, c'est à peu près ça. Surtout si vous chiez dans la colle, ça fait pas un pli. Par contre, je pense qu'avec un peu plus de figurines, ça peut durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et c'est 30-35 euros la boîte de base. Et,
30-50 chez Geek Bazar.
Où ça fait vraiment mal aux fesses,
ah,
c'est pour les extensions qui valent chacune 15 euros. Mais bon, voilà. C'est
quand... D'où l'intérêt de racheter une deuxième boîte de base, en fait, c'est ça.
Ouais.
Si tu veux.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Moins
c'est
cher, parce que t'as ton DD en plus et t'as tes figurines.
Oui, parce qu'il vendait. Alors, ça a été vite épuisé, mais il vendait des extensions X-Wing et TIE Fighter à 15 euros pièce. Et c'est ce que je disais déjà à l'époque. Il faut.
Deux boîtes de base.
Ouais. Puis comme ça, t'as les gabarits, t'as tout ce qu'il te faut. C'est super sympa. Voilà, donc X-Wing, c'est bon, mangez-en.
Et de mon côté, je voulais partager une bonne impression, enfin une bonne impression, un très bon contact avec l'extension Cities pour Seven Wonders de Antoine Boza.
C'est ça.
Voilà.
On s'en lasse pas. Non. C'est même après des années.
C'est le comique de répétition.
Ouais, c'est ça.
Alors pourquoi Cities comme extension? J'ai pas testé Leaders par exemple, mais pourquoi Cities? Parce que Cities, ça amène la seule partie que j'ai testée en Cities, c'est la partie jeu en équipe. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé parce que Seven Wonders, bon, c'est un jeu de toute façon qu'on a toujours plaisir à sortir. Par exemple, avec un couple d'amis, il y a des parties, il y a des soirées jeux, on n'a pas trop envie de sortir le gros jeu. Ouais, alors, ça y est, je vois déjà Rivoli. Je vais peut-être reformuler. C'est très cool.
Il y a des soirées, on n'a pas trop envie, alors on sort City.
Non, voilà, on va pas
savoir un petit peu plus. J'ai levé un voile pudique sur.
On ne sort pas Indonesia systématiquement. Des fois, on est un peu fatigué, donc on va sortir juste Seven Wonders. Tu vois, on peut faire 4 parties dans la soirée.
Mais là, je couperai. On est un peu fatigué. Là, on sort Seven
Wonders. Sort.
Bon, passons. Alors, vas-y, parce que là, c'est très tard. En fait, on est déjà mardi.
On est
12.
Déjà mort. On est mardi. On est... Ouais.
Et voilà.
Donc,
Cities
de Seven. Donc, extension de Seven Wonders par Antoine Botta. Qui amène donc des nouveaux leaders, des nouvelles cartes citées et surtout la possibilité de jouer en équipe. Le jeu en équipe, comment ça se passe? Les joueurs, donc on fait typiquement du 2 contre 2, les joueurs en fait se mettent, les équipes se mettent l'une en face de l'autre, c'est-à-dire qu'on joue à côté de son coéquipier. Chacun démarre avec un plateau qui lui est propre, mais pendant la partie, en fait, les joueurs vont pouvoir se montrer les cartes qu'ils ont en main. Ils ne peuvent pas les échanger, bien évidemment, mais ils peuvent n'empêche se les montrer, ce qui est très important puisqu'il s'agit d'un jeu de draft et que donc du coup on peut discuter avec son voisin quelles cartes il vaut mieux choisir par rapport à la stratégie un petit peu de chacun sur son plateau et aussi commune vis-à-vis de l'équipe adverse. Par exemple, dans une des parties qu'on a faites, il y a un moment, ma partenaire elle avait les cartes, elle avait déjà démarré avec le plateau Catan, qui permet en deuxième pouvoir de la merveille de réduire de 2 l'argent de tout le monde. Y compris du coéquipier, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais déjà, on lamine un petit coup l'équipe adverse, parce qu'elle perd 4 pièces. Et derrière, on a rejoué d'autres cartes qui permettaient encore de matraquer l'équipe adverse. On l'a mise au sol là-dessus. Ensuite, ils ont galéré comme des fous. On peut faire tout plein de choses. On peut également s'arranger pour les cartes de commerce, au niveau de comment on va acheter moins cher les cartes aux voisins, etc. Bien discuter des ressources.
Comment tu fais? Tu
peux te montrer les cartes.
Eh, hey, regarde, celle-là.
Non, tu peux te les montrer. Bah ouais, ouais, bah on se les montre.
Et tu parles ou pas?
Ouais, tu parles. Mais de toute façon, l'équipe en face, ils sont aussi en train de parler entre eux, donc tu peux essayer de prêter une oreille à ce qu'ils disent, mais
tu fais comme dans Mytho, tu te passes des cartes ou pas?
Non, tu n'as pas le droit de te passer des cartes, on ne triche pas. Voilà, et un aspect qui change un petit peu, c'est quand même l'aspect militaire qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire que cette fois-ci, forcément on ne va pas se battre avec son voisin coéquipier, et donc on se bat en fait deux fois avec son voisin qui est en face, avec son adversaire qui est en face de nous. Et là, en fait, donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai une force. Ouais, c'est plus violent, parce que moi je prends deux, par exemple, si c'est moi qui suis le plus fort, je prends deux jetons forts, alors que mon adversaire ne prend deux moins un. Donc ça a moyen de faire énormément de points. Alors il existe des cartes qui rajoutent de la diplomatie. Dans ces cas-là, on met un marqueur diplomatie. Dans ces cas-là, lors du décompte, on ne comptera qu'une seule fois le conflit militaire et pas deux fois.
C'est moins violent.
C'est moins, ça, voilà, ça limite un petit peu les chocs. L'autre aspect, par contre, qu'il faut noter, donc dans City, ça amène aussi des cités. Donc les cités, c'est des nouvelles cartes qui sont, on va dire, sombres, qui sont noires, qui ressemblent un petit peu aux guildes en fait, qui vont ramener des points de victoire, qui vont ramener des bonus, des effets différents au niveau du jeu. À tel point qu'en fait, du coup, ce que j'ai trouvé moi, c'est que ça minimisait les guildes. Alors j'ai peut-être pas fait cette partie, donc je veux pas être, je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, moi, dans les parties que j'ai vues, il y a des villes, elles ont des pouvoirs suffisamment puissants et rapportent suffisamment de points pour ne pas avoir besoin de prendre des guildes. Voilà, donc moi, c'est ce côté équipe que j'ai beaucoup aimé. Ça renouvelle vraiment les parties. C'est vraiment, ça change vraiment parce que Seven Wonders, l'intérêt, c'est qu'on peut jouer une partie rapidement en une demi-heure, mais on est quand même chacun dans son coin. Donc c'est, je sais pas, le fait de jouer en équipe, cet échange qu'on peut avoir avec les partenaires, ça transforme complètement le jeu. Évidemment, la durée, par contre, elle en prend un coup. Faut faire à peu près, tu fais presque un fois deux puisque tu vas beaucoup discuter tes choix. Quand t'es tout seul face à tes cartes, tu fais un choix, tu poses, c'est terminé. Quand t'es à deux, il faut analyser complètement toutes les possibilités des cartes, surtout 3, les premiers tours de draft.
3 heures alors.
Non. C'est-à-dire que t'es sur 1 heure, à 4 heures au lieu d'une demi-heure, quoi.
Ça va.
Je pense que c'est pareil avec l'expérience. Après, ça descend, mais le fait que tu as cette partie de discussion, forcément, tu augmentes la durée de la partie. Voilà, mais pour moi, ça m'a donné autant la même super impression que l'extension Asie qui était sortie pour les Aventuriers de Rail, et pareil, où il est possible de jouer en équipe. Et qui vraiment transforme le jeu. Là, c'est pareil, on a, même si on a la même mécanique et tout, on n'a pas l'impression de jouer au même jeu, tellement les choix sont beaucoup plus importants.
Très bien.
Voilà, City, c'est une extension pour Seven Wonders, Antoine Bozache et Repoprod. À peu près 20 euros, et Seven Wonders, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à
et toute la famille
de 10 ans, voilà, pour toute la famille. Et puisqu'on en est à parler de Repoprod et de leur jeu, j'ai aussi joué à City of Horror.
Oui,
City of Horror, donc c'est un jeu sorti à Essen l'année dernière sur une thématique zombie. C'est en fait la réédition et en même temps une nouvelle version de ce qui était sorti avant chez Asmodée. Là, ça s'appelait Zombie, La Blonde, La Brute.
La Blonde, La Brute, tel truc.
Non, c'est pas La Blonde, ouais, c'était La Blonde, je sais pas quoi. C'était Mall of Horror en anglais, donc qui revient, donc c'est toujours Nicolas Normandon.
Normandon
pour Olivier. Ça reste un jeu essentiellement de négociation, donc en fait le principe c'est que...
Ah c'est carrément, en fait c'est juste carrément un jeu de négociation, La Blonde, La Brute et le Truand.
C'est ça.
C'est
pareil, c'est un jeu de négociation.
C'est-à-dire que t'aurais mis ça dans le Far West où ça aurait été pareil, enfin, je veux dire, tu fais une attaque d'Indiens et puis...
Tout à fait, mais c'est des zombies.
Bref. Oui c'est ça.
C'est beaucoup plus, en plus, enfin autant quand il est sorti en 2000...
En 2005.
2005, bon. Les thèmes des zombies n'étaient pas aussi présents. En 2013, je veux dire, le zombie, il y en a de partout, quoi.
Oui.
Et c'est pas la sortie de World War Z qui va l'arrêter. Donc.
Alors, parlons-en de World War Z.
Non.
Ok.
Lisez le bouquin. Le film, j'en sais rien, mais le bouquin, lisez-le, il est top. Oui. Voilà. C'est tout ?
Non. Oui, tu t'as dit qu'on n'en discutait pas.
Non, sinon, je veux bien, mais c'est minuit.
Non, vas-y.
Mais c'est super à lire. Très, très bon bouquin. City of Horror, donc le concept, c'est qu'il va falloir survivre, évidemment, vous êtes des rares survivants de...
Comme dans Croc.
De l'invasion zombie.
C'est du survival horror.
Ouais, mais c'est du vrai survival horror. Le principe, c'est que les secours arrivent, mais dans 4 heures seulement, il va falloir tenir 4 heures, donc 4 tours de jeu. Pendant ces 4 heures, effectivement, la horde de zombies va déferler sur la ville, il va falloir...
Premier changement par rapport à la bombe, la brute et le truc.
Pourquoi ?
Ça se terminait quand...
Ah bah là, il y a 4 tours. Ouais.
Et non, ça y avait pas... Ça veut dire que tu peux ne pas être le seul à gagner. Non, ça veut dire qu'à la fin des 4 tours...
Oui, il peut y avoir plusieurs survivants. Il peut aussi y avoir... il y a très peu de survivants, de toute façon. Le principe, c'est que les joueurs ont un certain nombre de personnages qui vont faire évoluer sur le plateau, donc ça dépend en fonction du nombre de joueurs. On va dire à 4 joueurs, vous avez 4 personnages sur le plateau. Chaque personnage a bien sûr des pouvoirs... un pouvoir différent qu'il va pouvoir utiliser qu'une seule fois dans la partie. Pouvoir très important, mais par contre, quand le personnage, en fait, chaque personnage que vous allez réussir à amener jusqu'à la fin de la partie va rapporter des points. À condition qu'on ait récupéré des antidotes. C'est un des rares...
Quoi ?
Eh oui, c'est un des rares jeux de zombies où il existe un antidote pour ne pas être zombie. Donc, c'est-à-dire que s'il me reste 3 personnages vivants à la fin de la partie, ce qui est difficile, et que j'ai que 2 antidotes, je n'ai que 2 personnages que je pourrais sauver.
Tu choisis ou alors c'est...
Oui, tu choisis. Ouais. Et les personnages, donc, ils te rapportent un certain nombre de points de victoire. parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, donc pour les équilibrer. Et ton personnage, s'il n'a pas utilisé son pouvoir, te rapportera beaucoup plus de points de victoire que si tu l'as retourné sur sa face, pouvoir utilisé.
Et le plus useless, donc celui qui va le moins te servir, te rapporte le plus de points, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Après, c'est en fonction s'ils ont un pouvoir puissant ou
là,
alors.
C'était la blonde
quand
qui
tu la retournes.
C'est dans la blonde.
Elle poussait un cri, elle attirait des zombies.
Ouais.
Et donc tu la retournes pour plus qu'elle pousse de cri, pour qu'elle attire moins de zombies. Mais du coup, elle vaut moins de points.
Ouais, c'est ça. C'est plus t'es vulnérable et plus tu risques de te faire croquer en premier et plus tu.
Exactement. Ah oui, les personnages peuvent rapporter jusqu'à 5 points. Alors sachant que les personnages au début sont tirés au hasard, donc des joueurs peuvent très bien démarrer.
Ah bon.
Ouais. Ils sont tirés au hasard, les personnages au départ. Donc, tu peux très bien démarrer avec un total de points qui est bien plus inférieur ou bien supérieur à tes adversaires. Mais de toute façon, tes adversaires vont le savoir et forcément, tout va se rééquilibrer en permanence au cours du jeu.
Je pense que je n'aimerais pas ce jeu, en fait. J'ai pas aimé la blonde, la blonde.
Alors, on va y venir après. Enfin, sur l'aspect négo, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à négocier. En début de partie, tu as un certain nombre de cartes actions. Par exemple, 6, il y a 4 joueurs, tu as 6 cartes actions. Tu vas rarement récupérer des cartes. Donc 6 cartes pour 4 tours, ça va être dur. Donc le plateau, il y a 6 zones différentes. Il va y avoir le château d'eau, il va y avoir la banque, etc. qui ont des effets. Donc jeu robot prod, donc biphase, donc double effet en fonction. La banque, fonction de plateau, a différents effets. Le château d'eau, il a un effet intéressant dans le mode A. C'est comme proxy jeu, il y a une face A et une face B. Ceux qui sont sur le château d'eau, donc c'est matérialisé par vraiment un truc en relief, ils vont pouvoir voir où vont arriver les zombies ce tour-ci, comment ils vont se déplacer, etc. Ensuite, en fait, donc ça c'est pratique. Donc ensuite, les joueurs vont, les personnages sont placés en début de partie sur le plateau, et ensuite à son tour de jeu, les joueurs vont choisir simultanément juste une carte déplacement, en fait, juste une carte lieu vers laquelle ils emmèneront un de leurs personnages, mais c'est tout. Les autres personnages ne bougeront pas. Et ensuite, on va résoudre lieu par lieu. Et donc, en fait, sur chaque lieu, on regarde, il y a des conditions d'attaque des zombies. Typiquement, genre, s'il y a plus de zombies que nombre de pions de personnages des joueurs. J'ai pas dit, mais sur les lieux, c'est pareil, il y a un nombre limité de places. Donc, si par exemple, devant la banque, il y a 3 joueurs les zombies ils attaquent sur 3 ou plus, il y a 4 zombies, par exemple, qui vont attaquer. Donc là, commence la négociation entre les joueurs. Ils disent, ouais, moi, je peux peut-être en tuer un, mais je veux bien le tuer, mais à condition que toi, tu me files en échange un antidote.
Ouais,
ça négocie un petit peu, etc. En sachant que des joueurs qui sont hors du lieu peuvent aussi rentrer dans un égo quand même.
Ah bon ?
Ouais.
Ok.
Pas forcément pour jouer les cartes. Là-dessus, si jamais les joueurs n'ont pas réussi à s'entendre suffisamment, enfin qu'il reste trop de zombies, l'attaque a lieu. Donc comment elle est résolue ? Les joueurs votent entre eux pour savoir qui va mourir. J'ai deux personnages sur le lieu, j'ai deux votes.
Qu'est-ce qu'on va sacrifier ?
Un personnage, voilà. Sachant que certains personnages comme le vieux n'ont pas le droit de vote. La femme enceinte peut accoucher et avoir deux votes exceptionnellement.
Quoi?
Une fois. Ah ouais, c'est comme ça, le nouveau-né a le droit de vote. Eh si. Par contre, la femme enceinte, une fois qu'elle a accouché, elle n'a pas le droit de revenir. C'est la seule qui n'a pas le droit de. Parce que des fois, les personnages qui sont de leur face utilisée, on peut les remettre sur la face en forme.
Oh.
Mais pas la femme enceinte.
C'est bizarre.
La femme enceinte, on change même son pion. Son pion, c'est des pions en carton, par contre, ça n'a pas des belles figurines en plastique, c'est des pions en carton. Bref. Donc il y a un premier vote, et là-dessus, s'il y a une égalité dans le vote, c'est le premier joueur, même s'il n'est pas sur le lieu, c'est lui qui tranchera l'égalité. Là encore, le premier joueur, il a un rôle énorme dans le poids de la négo. Bon, les jeux de négociation, c'est pas mon revoir, là-dessus aussi. Surtout, donc, c'est dur parce qu'on a, c'est très dur de voir dans les premières parties ce qu'on va pouvoir vraiment négocier, ce qu'on peut mettre dans la négociation ou pas. D'une manière générale, les joueurs vont surtout essayer de faire en sorte que... Enfin, les premiers tours, tu vas encore dégommer du zombie pour éviter les trucs, mais au fur et à mesure des tours, de toute façon, ça va dégommer de plus en plus.
Ouais, enfin le problème c'est ça, c'est ce qui m'avait pesé le plus, c'est que c'est vraiment de la négociation, que les gens qui connaissent, ils savent ce qu'ils peuvent échanger, ce qu'ils doivent garder.
Dans la première partie qu'on a fait, les joueurs ils ont cramé quasiment toutes leurs cartes sur les deux premiers tours, ça a été très dur la fin de partie.
Ouais.
Il y a des joueurs qui finissent éliminés, leurs quatre personnages finissent éliminés aussi.
Ouais,
là,
ouais.
Ça arrive.
C'est typiquement mon cas.
Voilà, bah ouais, c'est des choses qui arrivent. Donc une fois qu'on a fait l'attaque des zombies, il y a une attaque de, enfin de temps en temps, il y a eu du bonus qui sont arrivés dans le lieu. Dans ces cas-là, c'est pareil, les survivants vont voter entre eux, savoir qui se partage, comment, qui fait le partage. Et dans ce cas-là, personne partage. En gros, c'est les antidotes ou des nouvelles cartes actions. Voilà, c'est tout. Donc ouais, c'est du pur jeu de négociation. Il faut tenir quand même les 4 tours et récupérer ses antidotes. C'est pas simple. Ensuite, là-dessus, au niveau de la réalisation. Donc pour moi, le jeu, il est sympa. Il faut aimer vraiment le jeu de négociation pur et dur. c'est ça. C'est, on va dire, pur et dur. Généco pur et dur. Il faut vraiment être combat. Enfin, faut, je sais pas, faut savoir mettre en avant
ouais, c'est ce que
les
je disais,
cartes qu'on a. Les... Ouais, c'est pas facile tout.
En fait, c'est.
Ça marchera
pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est presque pas un jeu de zombies en fait.
Non, carrément. Bah non, c'est juste le côté survie quoi. Hein. Tu vas, mais sinon les zombies, tu sens pas ouais. La pression des zombies tant que ça quoi. Non. Enfin si, quand il y a 8 zombies sur un lieu, tu vas pas y aller.
Non, les gens t'es qui vite. Sont,
voilà.
Et est-ce que tu peux, parce que là, en fin de compte, dans la brute, quand tu choisissais un lieu et que le lieu était plein, tu te retrouvais en fait dans
là
un
aussi,
lieu.
Là aussi, tu te retrouves pareil. Si jamais tu vas sur un lieu alors qu'il y a déjà trop de personnages.
Ils ont gardé ce système.
T'es sur le carrefour, t'es au centre du plateau.
Ouais.
Et là, au centre du plateau, il n'y a pas de vote, il n'y a rien, il y a forcément un joueur qui veut mourir. Il y a forcément un jeton qui veut mourir. Donc, ouais. C'est encore pire. Voilà, et après, les pouvoirs des personnages sont pas mal. Il y a un peu de tout, les styles. Il y en a, ils peuvent se cacher. C'est-à-dire que pendant un tour, certes, ils participeront pas au partage du butin. De toute façon, il y a peu de butin à se partager. Et, mais surtout, ils participent pas au vote, mais surtout, ils pourront pas être mangés par les zombies. Donc en général, c'est un moyen de, quand tu te sens faible, etc., tu utilises ce pouvoir-là et hop, tu dis aux autres, débrouillez-vous, c'est sans moi ce tour-ci, donc ça casse un peu la donne.
C'est une carte ?
C'est des personnages, et il y a beaucoup en fait de pouvoirs des personnages qui sont aussi, qui se retrouvent aussi dans les cartes actions. Là-dessus, on retrouve vraiment, hein, ça se recoupe. Voilà, par contre, au niveau, moi, donc le jeu, j'aime bien, je trouve sympa, le design est très agréable. Le look, c'est Miguel Coimbra, donc très premier degré, hein, très... très sombre, un peu trop d'ailleurs des fois je trouve le plateau du coup ce que je reproche après c'est au niveau de la réalisation, je trouve que des fois il y a des éléments qui sont mal rappelés sur le plateau qui auraient pu être affichés un peu plus gros, un peu plus lisibles comme les effets d'un bâtiment par exemple. Je pense qu'ils ont voulu le faire pour pas altérer l'unité graphique.
Tu veux dire que c'est pas assez fonctionnel?
Oui, c'est ça. C'est trop sombre, c'est pas toujours fonctionnel.
Trop joli.
Ouais, ce que j'ai
c'est bien la première fois qu'on dit qu'un jeu est trop joli et qu'il est pas assez fonctionnel.
Ouais, c'est sombre en fait, il est très sombre, donc c'est pour ça que ça altère un peu. Ce que je lui reproche surtout, c'est la règle qui est mal écrite. Elle est mal présentée, je veux dire, l'enchaînement des choses. On se pose plein de questions lors de la première partie, on a du mal à trouver les réponses nécessairement. Il y a bien sûr il y aurait besoin d'une petite fac qu'on n'a pas. Il y a surtout des gros bugs, il y a des bugs sur le plateau, il y a un bug sur le plateau.
Ah bon ?
Ouais, je crois sur la banque, si je me rappelle bien. Et il y a un bug sur une carte, pareil, d'arrivée des zombies. Il y a des zombies qui sont dessinés à un endroit où ils devraient pas être. Et lors de la première partie, c'est la première carte qu'on a piochée. On s'est retrouvé un peu comme des cons face à ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment dommage. D'autre part, c'est du carton. Je me suis cru devant le matériel de ma première édition de Seven Wonders, c'est-à-dire du carton qui gondole. Tu vois, on a mis les plateaux, et puis les plateaux, c'est des gros plateaux. Alors par contre, on est sur des tuiles carrées énormes. Hein, font 30 par 30 facile.
30 par 30 ouais, et t'en as combien ?
T'en mets une aux quatre coins en fait, au centre t'en mets une en biais à 40 enfin tournée à 45 degrés, puis après t'as des sortes de rectangles taillés pour bien s'encastrer correctement. Mais bon, forcément tout le plateau bouge un peu, mais c'est surtout que quand on a posé le jeu, alors bon, on était dans la cuisine de mes amis parce que c'est là qu'il y a leur table et tout. Peut-être qu'il y avait un peu d'humidité, n'empêche que les cartons ils ont commencé à se relever sur les coins au fur et à mesure de la partie.
On était dans la piscine de mes amis.
C'était pas ouais non
mais ah justement. Mais non, c'est un sauna. Vous avez joué au sauna.
Bah non, mais enfin bref.
Tout s'explique et tout
voilà,
est cohérent.
Voilà, donc on se retrouve un peu avec les cartons qui gondolent. Donc là, c'est un peu la déception quoi sur le matériel. Voilà, mais le pire, c'est pour moi, c'est la règle aurait mérité d'être un meilleur travail de rédaction, d'éclaircissement.
Et surtout que c'est une V2, quoi.
Ouais, c'est une V2, mais... Ouais, oui.
C'est-à-dire, en général, t'essaies d'améliorer les choses, quoi. Donc, City of Horror, c'est un jeu de Nicolas Normandon, illustré par Miguel Coimbra, chez Asmodee Repoprod. C'est sorti l'année dernière, en 2012, 3 à 6 joueurs. Ça se joue à beaucoup ? Je joue pas à 3, il faut être 5-6.
Nous on a joué à 4, ouais je pense que pour avoir plus de négo il faut être 5-6.
90 minutes à peu près, 12 ans et plus.
Oui.
Et
oui.
Si vous n'aimez pas la négociation, si vous n'aimez pas les zombies, mais surtout si vous n'aimez pas la négociation, passez votre chemin.
City State est un jeu de Ricky Tata chez La Man Game, jouable de 3 à 6 joueurs, 15 minutes environ. Le jeu est composé de cartes et de pièces, les cartes étant appelées des influences et les représentants des personnages que les joueurs vont pouvoir influencer à la cour de la ville italienne qu'ils convoitent, et les pièces, ce sera l'argent. Chaque joueur a devant lui deux cartes face cachée, et ces cartes face cachée représentent son influence. Lorsque les cartes deviennent face visible, le joueur perd son influence, et une fois que vos deux cartes sont face visible, vous avez perdu la partie. Donc c'est un jeu d'élimination. À chaque tour, un joueur pourra faire une action parmi une liste d'actions qui seront, bah, par exemple, prendre des sous, échanger des cartes ou alors bah, tuer une influence d'un autre joueur. Il sera possible également, après que cette action ait été ordonnée, de faire une action en contre. Certains personnages vont avoir la possibilité de bloquer les actions d'autres personnages. Et enfin, il y a une troisième chose à savoir dans le jeu, c'est que tous les joueurs peuvent prétendre faire absolument toutes les actions, même s'ils n'ont pas les personnages. Parce qu'en fait, leurs personnages sont face cachée. Donc, tant qu'on ne demande pas ce qu'on appelle un challenge, lorsque je ne crois pas ce que me dit un joueur, je demande à vérifier, en fait, qu'il possède bien la carte dont il utilise l'effet. En cas où la personne n'a pas la carte, eh bien, il élimine directement l'une de ses influences. Dans le cas où il a la carte, eh bien, dans ce cas-là, c'est moi qui perdrai une carte parmi mes influences. Donc, c'est un jeu très rapide, hein, qui se joue en un quart d'heure, même peut-être moins, ça dépend plutôt du nombre de joueurs. Très agressif, c'est vraiment un jeu de bluff très rapide. Donc, c'est un jeu très sympathique à jouer plutôt à 6 joueurs, on va dire. En résumé, Coup City State est un jeu de Riki Tata pour des joueurs de 10 ans et plus et pour un prix de 15€ environ. Personnellement, j'aime beaucoup et je vous le recommande.
Allez, bah, écoute, là, on va la tenir, notre heure d'émission.
Ouais.
Il nous reste 10 minutes, et en 10 minutes, on va voir une petite review de deux jeux qui sont For the Win sur iPhone, un petit jeu à 0,89, et puis Shifts sur iPad, un jeu à 1,79€. Jérémy, maintenant, je vais me reposer, ce que j'ai fait déjà depuis 20 minutes.
C'est ce que j'avais dit, déjà, tu t'es reposé.
Je t'écoute.
Franchement, c'est scandaleux. Alors, For the Win, donc, on va commencer par ce jeu. C'est un jeu de placement.
C'est l'auteur, placement ?
Oui. Tu m'as déjà fait le coup avec rapidité. C'est pareil, enfin, ils vont ensemble. Quoique jeu de placement et de rapidité en même temps, je sais pas, j'ai jamais testé. Ils ont jamais fait de duo. Bien, donc...
Mais c'est fini un peu, on va pas y arriver.
Bah surtout, on avait 10 minutes, t'as déjà perdu 2 minutes, rien qu'en connerie.
Ah oui, mais je suis comme ça, moi. Ah oui, en plus, tu comptes le temps.
Bon, ah oui.
Ok. Non, alors, donc For the Win, c'est un jeu qui existe, de société qui existe, qui est fait par Tasty Minstrel Games, le fameux,
oui.
fameux éditeur américain. Le principe, c'est un jeu de pose de tuiles, un petit peu comme Hive. On va avoir, en fait, des 5 types du... Oui, 5 types de personnages différents, le ninja, le pirate, le zombie, l'alien... Et puis le singe. Le but, c'est qu'en fait, quand on va les placer sur le plateau, on va pouvoir utiliser des effets pour retourner, par exemple, les... En fait, ils ont un côté actif et un côté inactif. Donc, on va pouvoir utiliser le pouvoir du personnage. Dans ce cas-là, il y a passé le côté inactif. Et le but, c'est d'avoir ensuite ces 5 types de personnages côte à côte, en diagonale ou orthogonalement, côté actif. Donc, voilà, c'est tout. C'est le simple... Le seul but, c'est de les placer les uns à côté des autres. La difficulté, c'est que il va falloir utiliser pas mal de pouvoirs. Il va falloir... comment on va dire ? C'est plus compliqué que Hive à apercevoir ce qu'on peut faire. Les possibilités de chacun.
T'as pas la logique de l'essaim où tu pouvais déplacer tes pions autour du groupe ou...
T'en as qui ont justement qui ont ce pouvoir-là. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir quand est-ce que tu vas utiliser le pouvoir pour les déplacer, quand est-ce que tu vas devoir ensuite il va falloir les réactiver, etc. Ce que j'ai pas dit, c'est que le jeu il se déroule en fait en plusieurs manches. Une manche c'est 5 actions, un joueur peut utiliser jusqu'à 5 actions, et pendant ton tour tu peux utiliser une ou deux actions, et ces actions donc c'est mettre en jeu une tuile, ça peut être utiliser le pouvoir d'une tuile, ça peut être la rafraîchir, c'est-à-dire que tu la remets sur son côté actif,
upkeep.
Ouais, ça refresh. Et puis ça peut être aussi de faire un tu peux déplacer d'une case comme ça tout l'eau, la tuile plus toutes les autres. Comme ça, n'est-ce pas, ça fait rire.
Comme ça.
Que vous voyez, bah, ouais, bah, tu les pousses.
Tu les pousses, surtout qu'ils sont sur ton iPhone.
Tu les pousses. Et c'est sur ton iPhone, voilà. Mais c'est un jeu qui existe aussi en version table. Qui est sans doute pas traversé l'océan, mais qui existe en version table.
C'est pas nager ?
Non. Non, ils ont coulé, ils doivent être encore côté. Il faut pas aller bien loin.
Ils sont en train de réparer les câbles.
Ils ont dû les lancer, mais pas assez fort. Voilà. C'est dans l'océan. Bon, c'est, on peut continuer.
On peut y aller.
On peut finir. Ok. Au niveau du portage, le ou oui, enfin au niveau de l'intérêt du jeu déjà avant et après on verra le portage. Pour moi, le jeu, comment on va dire,
si vous avez toilette, si, métro, si, ou ouais. Plus si affinité.
Hein, oui, c'est ça, si tu veux. Non, c'est comme.
Je sais pas, tu passes 3 minutes pendant que t'es aux toilettes, faut mettre 1,5 pendant que t'es aux toilettes. C'est 10 minutes quand tu prends le métro ou alors tu.
Moi, ouais, c'est genre truc que je fais dans le bus, ouais.
Dans le bus.
Je fais une petite partie dans métro. Le bus, etc. Bus, métro. Voilà, c'est une petite partie, c'est 5-10 minutes, quoi. C'est. Les premières parties, tu vas en baver. C'est pas facile. En fait, le problème du jeu, c'est que.
Le challenge.
Il faut plusieurs parties pour maîtriser. C'est plus dur pour moi à appréhender que Hive. C'est dur de voir comment tu peux utiliser tous les bonus, enfin tous les effets des personnages, etc.
Un jeu intelligent.
Quand est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Oui, là-dessus c'est bien et ça fait plaisir de voir autre chose que Hive. On va dire Hive, c'est bien, mais au bout d'un moment j'ai tellement joué que voilà.
Il y a le projet GIF. Hein, mais...
Ouais, il y a le jeu du projet GIF, mais c'est différent, c'est pas donc tu as pas tous ses côtés, t'as pas tous ses pouvoirs. Au niveau du portage, pour moi c'est du tout bon. C'est bien fait, c'est par contre c'est en anglais. Il y a un bon tutoriel qui permet bien de comprendre tout ce qu'il faut faire. Le jeu répond bien, on peut facilement faire glisser ses tuiles, on peut facilement utiliser un pouvoir ou pas. Ils ont même rajouté des petites animations par exemple quand tu utilises le pouvoir du singe ou je sais pas du zombie, il y a une illustration du singe ou du zombie qui vient par-dessus l'écran. C'était une manière de rendre le jeu un peu dynamique, je pense. Le surtout ce qui est intéressant, c'est que les IA sont bonnes. Quand je dis les IA, c'est parce qu'en fait ils ont fait plusieurs niveaux d'IA. C'est-à-dire il y a l'IA qui est bien dans tous les niveaux. Après il y en a, ils en ont fait par niveau. C'est-à-dire une qui va se concentrer sur son plateau de jeu. Il y a des IA qui vont d'abord chercher l'interaction avec toi, qui vont chercher à te pousser, qui vont chercher à etc. Du coup, en fait, il est conseillé de jouer avec l'IA au niveau le plus équilibré à la fin. D'abord, il vaut mieux jouer avec d'autres IA, le temps de justement bien maîtriser comment fonctionne le jeu, comment fonctionnent tous les pouvoirs des personnages, etc. Avant de... Et le jeu est bien sûr jouable en multi, donc on peut jouer contre d'autres joueurs à travers le réseau. Force the Wind, c'est un jeu sur iPhone, pour en solo ou bien à deux joueurs, pour 89 centimes.
Ok. Tu conseilles?
Je conseille si vous aimez ce type de jeu, c'est quand même abstrait. Hein. Attention. Je dirais si vous avez aimé Hive, si vous regrettez qu'il y a un Hive qui est porté mais qui n'est pas super, etc. sur iPhone, oui, essayez-le. 89 centimes, de toute façon.
Ouais, tu.
Le portage est bon et de bonne facture, donc c'est ça qui aide. Quoi.
Ok. Ok, donc For the Win sur iPhone, 0,89 centimes. Et Shifts alors sur iPad?
Alors Shifts sur iPad, alors ça c'est un autre type de jeu. Donc Shifts c'est un jeu qui est sorti sur iPad fin janvier, c'est tout récent. C'est pas un jeu de société à la base, c'est vraiment un jeu qui a été conçu pour l'iPad. Donc ça ne se joue qu'en solitaire, on peut pas jouer à plusieurs, à travers le réseau, etc. Il n'y a pas du tout ça. Le but du jeu, l'humanité s'est faite dépasser par la singularité. Vous savez, la singularité c'est quand d'un coup...
L'ordinateur devient plus intelligent que toi.
Voilà, etc. Donc évidemment, il décime essentiellement l'humanité. Il n'y a plus qu'un vaisseau qui survit.
Qu'un vaisseau. Eh, mais c'est Battlestar Galactica.
Tout reconnaissant, voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez proche de ça. Et donc, le but du jeu, ça va être à bord de ce vaisseau, ça va être de parcourir l'espace et de trouver 4 mondes à coloniser. Le vaisseau, il a plusieurs caractéristiques qu'il va falloir surveiller en cours de partie. Ça va être évidemment son énergie.
Ouais.
Son blindage, ça.
Ouais.
Et puis les arcs, c'est je sais pas trop, c'est les vaisseaux, c'est une technologie qui permet aux humains d'aller notamment coloniser les mondes. Si un seul de ces 3 critères tombe à 0, c'est la défaite automatique.
Ressemblance
avec Battlestar est purement fortuite, évidemment. Par contre, là, il n'y a pas de filon, il n'y a rien, puisqu'on est, il n'y a que nous à bord. Le principe, c'est que on verra le portage après, on a 5 personnages, 5 officiers qu'il va falloir placer. En fait, on a le tour de jeu ensuite, donc c'est d'abord on place ces officiers, on va les placer sur 3 positions qui sont des chiffres qui correspondent à des actions qu'on va pouvoir faire dans le tour, et 2 qu'on va pouvoir interfacer. Les personnages, ils ont à la fois, si on les place sur le shift ou si on le place sur l'interface, ils n'ont pas le même effet sur le jeu. Chacun sa spécialité, évidemment. On a la scientifique, on a le chef, on va dire, la, c'est executive officer, donc on va dire le général, hein, on va dire. Le commandant, enfin celui qui va naviguer, le pilote, le médecin et puis l'ingénieur qui va permettre de réparer le vaisseau. En fonction donc comment on va les placer, ensuite on va pouvoir résoudre les actions. Les actions, c'est on prend son vaisseau, on peut se déplacer de une case sur le plateau, on peut, si on est sur un système solaire, explorer pour éventuellement faire une colonie, mais c'est pas toujours, donc des fois on va simplement récupérer un bonus. Ça va être de pointer les scanners vers une zone de l'espace pour voir ce qui s'y passe. Ça, ça suppose d'avoir placé la scientifique justement sur les cases interface et pas sur une case de shift. Voilà, on peut réparer le vaisseau ou bien récupérer de l'énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on va se déplacer avec le vaisseau, on va consommer de l'énergie.
Normal. Et est-ce qu'on peut utiliser les scientifiques comme combustible ?
Non.
Non.
Non, parce qu'en fait, t'en as beaucoup besoin. Parce que jusqu'ici, ça paraît facile, après tout, c'est qu'un jeu d'exploration, etc. Sauf que, chaque tour, vont apparaître des crises.
Oh, ça alors
Ouais, tout ressemble. Les crises, elles sont un petit peu différentes, là, tu votes pas. C'est des crises, en fait, sur 5 critères différents. Ça va être un qui va altérer, par exemple, ta consommation d'essence. Ça va te consommer de l'énergie beaucoup plus vite. Tu vas avoir une crise qui va altérer ton blindage. Enfin, ta carrosserie, tu vas avoir une crise qui va altérer tes arcs. Donc, tu vas en avoir qui vont partir dans l'espace, tu vas perdre. Eh bien, il y a un pourcentage de corruption. On verra, les arcs, c'est une ressource difficile à gérer. Et puis, il y a un autre truc, en fait, on va avoir quelque chose qui va abîmer nos robots. On a aussi des robots qui peuvent nous aider. Donc, pour résoudre une crise, en fait, si on ne résout pas la crise, c'est tant qu'on la laisse, on subit l'effet, le malus en permanence. Et il y a des crises tous les tours qui arrivent, donc il va quand même falloir... Donc on va placer nos officiers sur les cases shift et pour lutter. Par exemple, sur la partie que j'ai devant moi, j'ai une attaque, j'ai une corrosion au niveau de mes arcs. Donc je vais prendre mon médecin, c'est lui qui est fait pour lutter contre, et je le place.
La corrosion ?
Ouais, ça c'est pas la corrosion, je sais pas comment ils appellent ça. La corruption, pardon. La nano-corruption, n'est-ce pas, qui altère donc mes arcs. Donc je vais aller mettre mon jeu. Mais ça va pas être suffisant. À lui tout seul, il résout pas la crise ce tour-ci. Je peux m'aider des robots, je vais pouvoir acheter éventuellement des robots pour améliorer tout ça. Évidemment, il y a quand même une part un petit peu aléatoire des fois dans la résolution. On n'est pas sûr tous les tours de pouvoir résoudre les crises.
Oh, parce que sinon, ça sera trop facile.
Ouais. Les officiers que je place dans les chiffres, donc on va dire les actions normales, ils vont fatiguer. Donc ils fatiguent un tour, deux tours, trois tours. Plus ils sont fatigués, ensuite, au bout de trois tours, ils sont tellement fatigués qu'en fait, ils ont un effet négatif et que tu es obligé de les mettre dans l'interface plutôt pour qu'ils se reposent. Donc il faut gérer aussi cet aspect, il faut faire une rotation, enfin il faut faire tourner ton équipe en permanence, en sachant que le médecin peut quand même aider à soigner, à reposer tes personnages, mais tout de même, il faut régulièrement faire tourner. Voilà, donc le principe du jeu c'est juste ça, donc les crises au début on n'a que 3 dans la partie, mais plus la partie va avancer, plus on va avoir des crises, on peut en avoir jusqu'à 8, ça va avoir des effets très négatifs. Par exemple, on peut perdre jusqu'à 2 d'énergie par tour. Il faut savoir qu'au maximum, pour en avoir 10, donc ça consomme vite. Pour regagner de l'énergie ou du blindage, il faut placer son ingénieur sur l'interface.
Il faut balancer l'ingénieur dans le moteur, ou alors voilà. Il faut le mettre contre la paroi. C'est face au fils de blindage.
Et pire, les arcs qu'on va en perdre tour par tour, il y en a 1000 au départ, mais quand ça, il n'y a aucun moyen de le remonter. Donc chaque tour, il va y avoir la corruption d'arcs qui va augmenter. Au début, on commence à 2,5%, mais à chaque fois, ce pourcentage va augmenter avec les crises, et il n'y a pas moyen de le descendre. Et si on tombe à zéro avec les arcs, c'est perdu automatiquement. Voilà, donc c'est un jeu... pour moi, on retrouve tout le sel qu'il y a dans un jeu comme Pandémie, dans un jeu vraiment où il faut, justement, il faut gérer toutes les crises, il faut faire les bons choix pour réussir à survivre. Les premières parties vont être délicates parce que, par exemple, on se rend pas forcément compte que les arcs, une fois qu'ils sont tombés à un score faible, on peut pas les remonter. Donc dans les parties d'après, on va faire attention à ne pas trop descendre les arcs, mais du coup, on va faire pas gaffe à d'autres choses et on va se faire submerger par d'autres crises. Donc il va falloir plusieurs parties avant d'y arriver.
Ouais, c'est bien.
Ça, c'est sympa. Par contre, après, le jeu, il n'a pas de niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à bien trouver comment tu peux placer tes
bonhommes,
il va falloir quelques parties quand même. Bah, déjà, non, enfin, tu vas être en tout cas plus à l'aise. Après, c'est pas fini parce qu'il y a un côté random complet. C'est-à-dire que les crises, elles arrivent de manière totalement aléatoire. Il y a des débuts de partie, tu vois déjà les crises, tu dis, oulala, elle va être dure cette partie, ou à l'inverse, les crises sont moins, attaquent pas tout de suite tes arcs, etc. Ça va te permettre d'un peu mieux démarrer. Et pareil, dans les explorations des mondes, je sais pas, on joue pas sur une carte immense. Mais je sais pas combien il y a réellement de planètes qu'on peut coloniser parmi sur tout l'espace. Mais l'autre jour, j'ai fait une partie et quasiment chaque fois que j'ai visité un monde, j'ai pu le coloniser direct. Donc pour moi, c'est le petit côté un petit peu dommage du jeu, c'est ce côté un peu trop aléatoire qui aurait dû être, qui aurait pu être contrebalancé, qui aurait pu être voilà, équilibré un petit peu. Pour le reste du jeu, pour moi, c'est impeccable. Enfin, au niveau de l'interface, de l'ergonomie, tout est bon. Au niveau des choix, enfin, pour moi, c'est un jeu. On est proche d'un jeu de société sur ces aspects-là. On pourrait très bien jouer en coopératif où chacun décide où il met son personnage, hein, mais en solo, c'est juste très bien. Le petit bémol, c'est que le jeu il est en anglais. Donc, pour ceux que ça va être un petit peu délicat. Et l'autre bémol, c'est qu'il n'y a pas de. Au niveau tutoriel, il n'y a pas un vrai tutoriel. Ils sont dû s'en rendre compte à la. Donc, en fait, c'est juste un bouton help qu'on appuie et qui.
Il t'indique le meilleur quoi jouer ?
Et non, non. Et il y a des points d'interrogation. Donc, au début, quand tu vas prendre le jeu, tu cliques sur chaque zone où il y a un point d'interrogation. Et il t'explique rapidement. Donc, il faut lire toutes ces zones comme ça. C'est un peu comme si on lisait une règle de jeu, en fait. Hein. D'où le côté, les premières parties, bah, tu vas forcément faire des erreurs et tu vas apprendre doucement. Mais pour moi, le jeu est prenant. Hein, parce qu'au début, quand je l'ai mis, j'ai passé un temps fou bah, jusqu'à ce que j'ai gagné ma première partie, quasiment, à enchaîner les parties pour y arriver.
Combien
de parties ?
Ouais.
Facilement une dizaine, je pense. Après, une partie, c'est une dizaine de minutes, hein, c'est pas non plus. Mais c'est prenant, je veux dire, quand t'as démarré ta partie, t'es dedans, quoi. Le monde peut s'écrouler autour de toi. T'es tellement. Enfin, t'as les crises à gérer, t'as tellement à gérer la fatigue de tes personnes, enfin, à faire tourner, etc., que t'as pas envie de laisser la partie là, tomber parce que t'as ton cerveau qui réfléchit à tout ça. Donc, tu finis la partie, puis après, tu vas faire autre chose. Voilà, mais parfait pour passer. C'est un bon moment, je pense que le jeu, c'est pas parce que j'ai réussi déjà plusieurs fois de gagner, je perds encore des parties donc je pense que je pourrais continuer à jouer et puis je pense que c'est le jeu qui vont faire évoluer pour amener ces aspects qui manquent un petit peu de niveau de pour équilibrer le jeu et choisir un peu des niveaux de difficulté.
Et donc tu
bah je conseille.
Conseille.
Carrément. C'est une très bonne découverte. On n'est pas dans le jeu de société mais pas loin. Enfin, pour moi, on est proche du jeu de société quand même. En solitaire, moi, je joue beaucoup à Puerto Rico, par exemple, ou aux Aventuriers du Rail sur mon iPad. J'y joue en solo la plupart du temps. Donc, ça me choque pas de jouer à ce genre de jeu également sur iPad.
Ok, donc deux jeux sur iOS que tu conseilles. For the Wind et Shaft.
Shift.
Et Shift. J'ai envie de mettre la musique de Shaft...
Si tu veux, mais on va pas être dans le même style.
Non. Et voilà, donc on est mardi 12 février.
Oui.
Là maintenant, on y est. Toi, cher auditeur, si tu as des jeux sur... tablette ou sur téléphone, mais plutôt Android ou Windows 7, n'hésite pas, parce qu'on a déjà pu beaucoup de choses
Windows
sous iOS.
8. Ouais.
Oui, pardon, Windows Phone 8. N'hésite pas. Et puis voilà, on vous rappelle l'adresse du site, podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les jeux auxquels on a parlé ce soir. Desquels on a parlé ce soir. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si...
N'oublie pas iTunes.
Oui, la thune.
La thune.
La thune.
iTunes, très important.
La phase de book, le Twitter.
Voilà.
Et puis voilà, bah nous on va aller se coucher. Et puis voilà, et en attendant, jouez bien. Non mais vas-y.
Bah alors.
Bah quoi ?
Bah nous sommes lundi.
C'est nous parti. Sommes presque mardi.
Ouais, nous sommes mardi. 12 février. Attends, j'ai pas bonne oreillette. Est-ce que c'est mieux ? Je m'entends plus.
Moi je t'entends très bien.
Bah mon oreillette elle marche plus. Je dois rentrer dans mon câble. C'est une oreillette pourrie. Attends, je vais faire une pause.
Ouais, vas-y.
Tu es bavard, je suis désolé.
Mais tu fais quoi là ? Mais tu pouvais pas attendre deux secondes que je finisse ?
Déjà.